Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagut.
Eh oui, avec Philippe Lagut. Je sais que vous êtes en ligne, je sais. Je vous demande un petit peu de patience. On parle avec Philippe, ça va être super intéressant. Puis après ça, on revient avec vos questions. Salut Philippe!
Tu me mets de la pression, Daniel.
Ben, il y a des gens qui veulent nous parler, c'est le fun. Je suis content, j'aime ça. Mais faut parler justement de ton... Juste avant, Philippe, c'est important de mentionner qu'on peut te lire. Parle-moi un peu de ton site.
PhilippeLagut.com, qui est un site qui, comme par hasard, parle de voitures de luxe, de voitures de prestige et parle beaucoup d'histoire. Tout bon. Est dans tout, hein, Daniel?
Alors, voilà. Aujourd'hui, tu me parles d'histoire, puis on commence avec l'histoire d'Alfa Romeo.
Aujourd'hui, je vous parle d'Alfa Romeo, et justement, si vous voulez voir des photos des modèles dont il va être question aujourd'hui, vous pouvez voir ça sur mon site.
Ils sont belles à part de ça.
Ils sont pas pires.
Je suis là, sur ton site.
Bon, alors, on va rendre à César ce qui est à César. C'est Germain Goyer, en plus, qui a fait ma recherche photo. Germain, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal.
Good.
Alors, Alfa Romeo, c'est une marque italienne qui est aujourd'hui la propriété de FCA, le groupe Fiat Chrysler, après avoir longtemps appartenu à l'État italien. Mais si on commence par le commencement, la marque Alfa est fondée en 1910 à Milan. Donc, Romeo, il n'est pas encore dans le portrait. Non. En fait, c'est un Français, Alexandre Darac, qui fabrique déjà des voitures sous son propre nom en France depuis le début du siècle, qui va ouvrir une usine à Naples, en Italie, pour contourner les droits de douane. Hein? Déjà, ce qu'on fait aujourd'hui avec le Mexique, là, ben, c'est ça.
Ben oui.
Alors, Naples est un peu trop éloigné de la France. Ça, c'est un problème. Et la production va être transférée dans une nouvelle usine à Portello, près de Milan, dans le nord de l'Italie. Et pour l'anecdote, un des employés d'Alexandre Darac à cette époque-là est nul autre qu'un Suisse du nom de Louis Chevrolet, qui va ensuite émigrer en Amérique. Ah, ouais. Et le reste appartient à une histoire qu'on vous racontera peut-être.
Oui, voilà.
Alors, en raison de difficultés financières, l'entreprise est vendue à des hommes d'affaires italiens qui la rebaptisent Alfa. Alfa, c'est un acronyme comme Fiat. Le nom complet, puis là, j'essaierai pas de sortir mon accent italien, là. Le nom complet, c'est Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Puis c'est aussi un clin d'œil à Alfa, qui est la première lettre de l'alphabet grec. On veut ainsi souligner que c'est un nouveau départ. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer le premier logo de la marque sur lequel figure le serpent des Visconti, qui est une famille princière de la Lombardie, et la croix rouge, qui est le symbole de cette région du nord de l'Italie. Le trèfle à quatre feuilles, lui, le célèbre quadrifoglio, il va arriver un petit peu plus tard, ça va être le symbole des activités des activités sportives de la marque, et il va être ajouté à l'écusson en 1923, pour
être précis. C'est celle-là que j'ai hâte de conduire, la quadrifoglio.
T'es pas le seul. Et pour terminer avec M. Darac, il va se retirer complètement de l'industrie automobile pour se consacrer à la gestion de l'hôtel Negresco, qui demeure encore aujourd'hui un des hôtels emblématiques de la Côte d'Azur. C'est à Nice, c'est classé 5 étoiles, c'est un hôtel qui est sur le plan architectural absolument superbe. Alfa, donc, va être mise en liquidation en 1915 à cause de la Première Guerre mondiale. L'entreprise va être rachetée par une banque italienne et la banque en question va confier la gestion à Nicolas Romeo, qui va utiliser l'usine pour construire du matériel de guerre. Alors, c'est là qu'arrive notre Monsieur Romeo. Et l'entreprise va être rebaptisée Alfa Romeo en 1920, 2 ans après la fin de la guerre, et va reprendre la production de véhicules automobiles. Je le précise parce qu'ils vont faire des camions aussi. Okay. Et ça, c'est la grande période d'Alfa Romeo qui débute, autant en sport automobile que pour ses voitures de production. Pour se remettre dans le contexte, Alfa Romeo va être en quelque sorte Ferrari avant Ferrari. Ces voitures gagnent les courses les plus importantes de l'époque, la Targa Florio, les Mini Miglia, les 24 heures du Mans, et ces puissantes voitures de route dérivent des voitures de course, un petit peu comme Ferrari.
Et là, Philippe, c'est là que j'invite les gens à aller voir les photos. Parce que ce que tu viens de dire, Ferrari avant Ferrari, vous allez voir que en regardant certains modèles, vous allez dire, ben voyons, est-ce que Ferrari a copié Alfa Romeo? Parce que tu vois vraiment de l'inspiration.
Ben oui, c'est sûr qu'on est...
dans les anciennes, des anciennes.
On est 17 ans avant, là, si on est dans les années 30, si on regarde la 6C, la 8C, c'est des voitures qui sont absolument magnifiques. Mais il y a un lien important avec Enzo Ferrari, parce qu'il va commencer sa carrière de pilote chez Alfa Romeo, pour ensuite devenir le directeur de la division course d'Alfa Romeo. En fait, en 1929, il va fonder la Scuderia Ferrari, qui, elle, va gérer en sous-traitance tout le programme sportif d'Alfa Romeo. Alors, sans Alfa Romeo, il n'y aurait peut-être pas eu de Ferrari.
Ah
oui, c'est à ce point-là. Tout est dans tout, hein, comme disait Raoul Duguay.
on apprend des affaires avec toi, Philippe. C'est incroyable.
Je suis là pour ça. Nicolas Roméo, lui, va être écarté de la gestion de l'entreprise en 1928. Et c'est finalement l'État italien, qui était de toute façon le principal bailleur de fonds d'Alfa Romeo depuis les années 20, là, qui va devenir propriétaire de la marque en 1933. Bon, là arrive la Seconde Guerre mondiale. Et l'usine de Portello va subir plusieurs bombardements, mais elle va être reconstruite à la fin de la guerre et la production va reprendre graduellement des camions et des autobus d'abord, ensuite les automobiles. Et là, Daniel, les années 50 vont être un tournant pour Alfa Romeo qui va passer à la production de masse. Okay. Avec des modèles populaires comme la 1900, la Giulietta, qui sont les premiers modèles de la marque à être assemblés sur une chaîne de montage. Donc là, on n'est plus un fabricant de voitures sport et de voitures de luxe. Là, on fait vraiment des voitures pour un peu tout le monde, mais tout en gardant une petite coche au-dessus. Là. Tu sais, c'est comme de la voiture pour tout le monde, mais déjà avec une petite coche premium. Et Alfa Romeo va aussi remporter les deux premiers championnats du monde de l'histoire de la Formule 1, donc en 1950 et en 1951, pour ensuite se retirer en pleine gloire et se consacrer uniquement à la fabrication de véhicules de grande série. C'est la période au cours de laquelle Alfa Romeo donc, va se démocratiser avec des modèles plus accessibles et qui va vraiment passer à un autre niveau, là, le constructeur artisanal qui passe en mode industriel. C'est pendant cette période aussi que va être produite la Giulietta Spider. Ça, c'est vraiment un des modèles emblématiques de la marque. On peut l'avoir dans des nombreux films de l'époque. Pensez à tout ce que le cinéma italien a produit dans les années 50. Vous avez une chance sur deux, à peu près, d'avoir une Giulietta Spider. C'est aussi une de mes Alfa Romeo préférées. Et dans les années 60, la Giulia, tiens.
Elle arrive.
Ben oui, va remplacer la Giulietta. Alors, en français, on pourrait dire que Julie a remplacé Juliette. Et la Giulia va être produite, elle, de 1962 à 1967. Non, excuse-moi.
77.
77, merci de me reprendre. Et certaines de ces déclinaisons vont être le fruit de collaborations avec les plus célèbres carrossiers italiens, Bertone, Pininfarina, Zagato. Et la plus célèbre d'entre toutes, là, c'est la Duetto Spider. Duetto, ça vous dit peut-être rien. De toute façon, ils ont été obligés d'abandonner le nom rapidement parce qu'il appartenait à une marque de chocolat. Alors, on l'a tout simplement baptisé Spider, dessiné par Pininfarina, et c'est celle-là qu'on peut voir dans le film Le Lauréat, The Graduate, avec Dustin Hoffman, qui est, on pourrait presque dire qu'elle joue un des rôles principaux dans le film, un petit peu comme Aston Martin dans Goldfinger. Et la Spider va être produite sans interruption pendant 27 ans, de 1966 à 1993. Alfa Romeo va aussi revenir à la compétition dans les années 70, d'abord en endurance avec beaucoup de succès, puis en Formule 1 au début des années 80 avec beaucoup moins de succès. L'aventure va d'ailleurs se terminer à la fin de la saison 85 avec quelques podiums, mais ils ne gagneront jamais de course là, en 6 saisons complètes en Formule 1. Et pour les puristes, la 75 va être la dernière vraie Alfa Romeo parce que ça va être la dernière berline à propulsion, donc à roue arrière motrice. Puis elle a été baptisée 75 pour souligner le 75e anniversaire de la marque en 1985. Et chez nous, elle était vendue sous le nom de Milano.
Ah, je ne dis rien.
Oui, c'est une berline d'un style assez particulier, mais bon, au moins, on avait un design qui est très, très, très fort et qui était très distinctif, ce qui avait toujours été un peu la marque de commerce des Alfa Romeo, de toute façon. Et là, on arrive à Fiat.
À la période moderne.
Fiat va racheter Alfa Romeo en 1986. Donc, Alfa qui appartenait à l'État italien, je le rappelle. Et là, c'est Fiat, qui est le plus gros groupe industriel italien à l'époque, qui rachète Alfa Romeo. Et la 164 devient le premier modèle de ce nouveau chapitre là, qui dure maintenant depuis 31 ans. Ça fait maintenant 31 ans que Alfa Romeo appartient à Fiat. J'ai failli conduire une 164 à l'époque, je t'en parlais en début d'émission, parce que j'ai commencé ma carrière en 1991. Malheureusement, Alfa Romeo s'est retiré du marché nord-américain l'année suivante et j'ai dû attendre 25 ans avant de pouvoir conduire ma première Alfa. Alors, est-ce que l'attente en valait la peine? Ben ça, je vais te dire ça dans la chronique qui va suivre.
Oui, oui, parce qu'on va parler justement au retour de la pause de cette fameuse Giulia que tu as essayée.
Et que tu as conduite toi aussi.
Ben oui, je l'ai essayé, puis je suis content de ce retour. J'ai hâte de voir, j'espère que c'est dans les premiers modèles d'une longue lignée. Alors on fait une pause à Auto 360, restez avec nous, puis au retour, bien, on parle de Giulia.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Petite pause, on vient tout de suite. Restez là. Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous sommes de retour et je vous donne les numéros parce qu'on va faire la Julia dans un instant. On va en parler avec Philippe et je vais répondre à vos questions. Évidemment, si vous avez des questions pour la région de Montréal, 514-790-98. 50 pour Québec, 418-670-93-30. Ailleurs au Québec, 1-866-790-98-50 ou encore Auto 60 à cogecomedia.com sont les façons. Je vous ai posé une question en ouverture d'émission. Je vous ai demandé la voiture électrique, oui ou non, vous y croyez? C'est quoi? Est-ce que c'est l'avenir? Vous pouvez nous entretenir sur ce sujet. Alors, Philippe, tu veux nous parler de la Julia que tu as fait l'essai?
Oui, puis ça fait partie d'une démarche qu'on pourrait appeler une démarche étapiste, hein, comme disait un célèbre penseur du Parti québécois. Donc, le retour d'Alfa Romeo en Amérique du Nord, il y a d'abord eu la 4C, parce que bon, il faut le dire, hein, Alfa Romeo a été absent là, pendant près de 25 ans de l'Amérique du Nord. Alors, on est revenu d'abord avec la 4C. Qui est un coupé sport à moteur central, qui est l'incarnation même d'un modèle de niche. Hein. On s'entend que c'est pas avec ça qu'on va... C'est pas ce qu'on appelle le pain et le beurre. Là,
c'est pas une voiture à volume, c'est une voiture de course, faut le mentionner. Là. C'est une voiture de course.
Presque, avec une carrosserie, là, quelque chose pour les vrais enthousiastes. Là. Un petit peu quelque chose comme une Lotus Elise. Là.
Et voilà.
Alors, autrement dit, on se fait remarquer, mais c'est pas avec ça qu'on va remplir les coffres.
Non.
L'étape suivante, c'était justement le lancement de la berline Giulia. Mais encore une fois, on a commencé avec un modèle de niche, c'est-à-dire la version la plus extrême et la plus chère, la Giulia Quadrifoglio, qui est une concurrente là, avouée des Mercedes C63 AMG, BMW M3, V6 double turbo, 505 chevaux. Là, hein, ça annonce ses couleurs. Et à chaque fois, ça c'est important de le préciser, il y a eu d'importants délais dans l'arrivée de ces modèles-là, ce qui était rien de bon là, pour améliorer l'image d'Alfa Romeo. Là, parce que c'est en plus, c'est des retards qui se comptaient non pas en mois, mais en années. Des fois, on se disait, coudonc, ils vont-tu par arriver. Ben oui, finalement, ils sont arrivés.
Oui, parce que ça a été là. Hey, là je me souviens au salon, dans un salon de l'auto, on nous avait promis que dans quelques semaines, ça allait arriver. À l'autre salon de l'auto, les voitures n'étaient toujours pas là. Fait que, tu sais.
Je pense que ça ne peut pas mieux illustrer mon propos. Là.
Mais je pense que ça a valu la peine d'attendre.
Ah, ça par contre, oui. La Giulia, c'est un modèle qui est très important pour Alfa Romeo parce que ça va être son pain et son beurre avec le Stelvio, hein, faut le dire aussi, là, qui est le premier VUS de l'histoire d'Alfa Romeo et qui devrait arriver bientôt aussi. La Giulia, elle, va essayer de se faire une place dans un autre créneau très lucratif qui est celui des modèles d'entrée des voitures de luxe. Autrement dit, là, la catégorie des Mercedes classe C, BMW série 3, Audi A4, qui sont évidemment les leaders incontestés là, de ce segment, mais qui comprend aussi l'Infiniti Q50, l'Acura TLX, la Lexus IS, la Cadillac ATS. Alors, ça vous donne pas mal le portrait. Puis quand on vous dit que c'est un segment de marché qui est payant pour un constructeur, j'ai un exemple éloquent. La Mercedes classe C, ça, c'est la reine des ventes là, dans cette catégorie-là, avec 10 000 exemplaires qui ont été vendus au Canada l'année passée. Ça veut dire que c'est vendu plus de Mercedes classe C au Canada que de Honda Fit ou de Toyota Yaris.
Quand même pas rien.
Ouais. Alors, évidemment, Alfa Romeo a des attentes plus réalistes. Ils n'ont pas le même réseau de concessionnaires non plus. Là. Mais bon, il faut commencer quelque part. Puis surtout, il faut commencer par être là. Et finalement, ils sont là.
Ah oui, ils sont là assez. Puis la présence de cette voiture-là, je pense que leur défi va être d'attirer les gens vers la concession et vers justement un essai routier parce que ça va être le défi. C'est de la faire connaître. Alors parle-nous-en, qu'est-ce que t'en retiens de cette voiture?
Bien, je pense que pour attirer, ça prend un design qui frappe. Ça a toujours été la marque de commerce d'Alfa Romeo. Et moi, je dois te dire là-dessus, Daniel, je suis resté sur ma faim. Hein. Vous connaissez le proverbe, qui aime bien châtie bien. Moi, j'adore les Italiennes. Je pense que c'est un fait qui est connu et documenté. Et Alfa Romeo, c'est une de mes marques préférées. Puis honnêtement, je m'attendais à plus. Quand je la regarde de face, avec la calandre, bon, là, c'est sûr, j'ai des petits frissons, je l'avoue, mais c'est l'ensemble qui me déçoit un peu. Quand je la regarde de profil ou de trois quarts arrière, ouf, tu sais, ça peut être confondu pas mal avec n'importe quoi, là. Avec une Lexus IS, une Acura TLX. Puis c'est sûr qu'avec une Italienne aussi, j'ai des attentes très élevées en matière de style, hein, parce que l'Italie, c'est quand même le royaume du design, le berceau des plus grandes firmes, là, qu'on a mentionné tantôt, Bertone, Pininfarina, Ital Design, Touring, Zagato. Ouais. C'est sûr que moi, je m'attends d'une Alfa Romeo à ce qu'elle me décroche la mâchoire, et c'est pas le cas avec la Giulia. Puis si on n'est pas un expert en matière automobile, ben comme je te disais, on peut la confondre avec bien d'autres choses, là.
Elle se reprend par contre à l'intérieur.
Ah, ça, là, tu jases. Là, en effet, ça, c'était à la hauteur de mes attentes. C'est exactement la décoration et l'ambiance que j'espère retrouver dans une Italienne. On peut m'asseoir dans la voiture, les yeux bandés, puis dès le moment où on va m'enlever le bandeau, je sais que je peux pas être assis dans d'autres choses qu'une voiture italienne quand je vois ce genre de décoration-là. Évidemment, il y a du cuir partout. La description de la décoration intérieure peut même se résumer en deux mots, chaleur et caractère, ce qui est exactement ce à quoi je m'attends d'une voiture italienne. J'ai quand même deux petits bémols, Daniel.
Ouais.
D'abord, les places arrière, qui me sont apparues un peu justes. Ça se situe dans la moyenne. C'est pas la moins spacieuse, mais c'est pas la plus spacieuse non plus. Mais surtout, moi, j'ai de la misère à comprendre que des berlines de luxe compactes offrent moins d'espace pour les jambes à l'arrière qu'une Toyota Corolla. Ça, c'est, y a rien à faire, ça me rentre pas dans la tête. Et mon autre bémol, ben, c'est le système d'infodivertissement qui est pas compliqué, mais pas simple non plus. Et Alfa Romeo aurait dû piger dans la banque d'organes de Fiat Chrysler qui propose, à mon avis, ce qui se fait de mieux dans le genre avec son système YouConnect, là, qui est vraiment, user-friendly.
Exactement, c'est un des meilleurs.
Oui, oui, convivial et simple. Moi, j'adore. Alors, pour ceux et celles qui auraient des craintes en ce qui concerne la finition, je vous rassure tout de suite parce que hein, ça n'a pas toujours été la plus grande qualité des Alfa Romeo. Là. Mais dans notre véhicule d'essai, la qualité d'assemblage était, là, comme on dit, à l'équerre. Je ne sais pas ce qu'il en était de ton côté avec celle que tu as eue, mais moi, c'était impeccable.
Moi, c'était impeccable. J'ai adoré l'intérieur, j'ai adoré l'aménagement, les cuirs italiens, bravo. La combinaison des cuirs aussi, parce qu'on peut l'avoir rouge vif si on veut, donc on nous laisse quand même le soin de la personnaliser selon nos goûts. Ça, j'ai bien aimé. Philippe, j'aimerais que tu me parles de la motorisation puis de la puissance. Qu'est-ce que tu en retiens?
Ben écoute, Alfa Romeo a bâti sa réputation avec ses moteurs. Hein. Même quand ils avaient des petites voitures et des petits moteurs, mais tu sais, c'était des moteurs qui étaient quand même plus puissants que ceux des humbles Fiat à l'époque. Là, une Alfa, c'était comme une Fiat premium, finalement. Alors, sous le capot de la Giulia, ben, on retrouve un 4 cylindres 2 litres turbo, mais 280 chevaux. C'est quand même pas rien. C'est le plus puissant de sa catégorie. Mais, énorme déception, Daniel. Il chante pas! Un moteur italien qui chante pas, c'est un sacrilège, c'est une hérésie. Non, mais c'est d'une italienne, on veut vraiment ça. Là. Même quand on la conduit en mode manuel, là, avec les palettes là, de chaque côté du volant, et qu'on rétrograde, là, c'est assez timide. Hein?
Oui, c'est timide au niveau du son, mais au niveau de la performance et du couple, là, c'est quand même assez impressionnant. On n'est pas loin du 5 secondes là, en 0 au 100. C'est quand même quelque chose pour un petit 4 cylindres comme ça.
Oui.
306 livres de couple. Je te dis que tu sens la puissance, mais tu ne l'entends pas. Je comprends.
Et c'est dommage parce que c'était une belle occasion pour Alfa de se démarquer par rapport à la Sainte Trinité allemande, là, Audi, BMW, Mercedes, dont les moteurs n'ont pas une sonorité très, très inspirante. Là. Pas non, dans cette catégorie-là. Là.
On est rendu dans le luxe dans cette catégorie-là maintenant, Philippe. Donc, on ne veut pas prendre de chance pour essayer de rejoindre le plus de monde possible. Alors, j'ose croire qu'on va s'éclater avec d'autres modèles.
La Quadrifoglio, sans doute.
Ouais,
mais pour ce qui est de la souplesse du moteur, par exemple, ça, j'ai été impressionné. Là, on est du même calibre que les Allemandes. Ça monte en régime sans broncher. J'aurais aimé ça qu'il aille plus haut en régime, mais bon, ça, c'est le propre des moteurs turbo-compressés. Il y a des limites de ce côté-là. Mais c'est quand même un moteur qui monte avec beaucoup d'enthousiasme et de façon très linéaire. Je trouve ça juste dommage qu'on atteigne la zone rouge là, aussi rapidement. Mais ceci étant dit, comprends-moi bien, Daniel, là, j'ai l'air un peu sévère, mais c'est tout un moteur. Hein. Il est rapide, il y a du couple, tu l'as dit, à tout moment. Et son raffinement mécanique n'a absolument rien à envier à celui de la concurrence. Mais je m'attendais à ce qu'il se démarque par sa sonorité. Et là-dessus, je suis vraiment resté sur ma faim. Autre lacune, Daniel, pas de boîte manuelle. Boîte automatique à 8 rapports, oui, OK, elle fait un travail irréprochable, faut le dire, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, avec 3 modes proposés en plus. Je suis très conscient que les boîtes manuelles là, constituent une espèce en voie de disparition, puis que lorsqu'elles sont offertes, elles représentent là, probablement un infime pourcentage des ventes. Sauf que BMW, Audi et même Cadillac offrent une boîte manuelle dans les modèles concurrents, là. Et surtout, une marque comme Alfa Romeo, avec le passé qu'elle a, ses succès en compétition, son identité même, ils doivent proposer une boîte manuelle. Je trouve ça incontournable. Il y a une raison pour laquelle on achète une Alfa Romeo. Puis l'agrément de conduite est en tête de liste. Et pourtant, on a décidé de ne pas l'offrir en Amérique du Nord. C'est, à mon avis, une décision plus que discutable, je dirais même regrettable.
Et au moins, on a la traction intégrale qui est disponible.
Ah ben ça, je pense qu'ici, il fallait.
Voilà,
c'était un peu incontournable, sinon il n'aurait vendu encore moins, en tout cas. Et avec une Alfa, ben les attentes sont élevées aussi en matière de comportement. Là-dessus, on peut dire que les attentes sont comblées. On est vraiment proche de la perfection. Ça commence avec une direction qui est parfaitement dosée, qui est ultra précise et qui donne du feedback, ce qui est de plus en plus rare. Sur l'autoroute, la Giulia est très confortable, très silencieuse aussi. La cabine est bien isolée, on perçoit à peine les bruits de roulement. Mais dès qu'on va sur une route sinueuse, la Giulia est comme un poisson dans l'eau. Ça, on voit que c'est son habitat naturel, là. Et on voit que c'est une voiture qui a été conçue pour la conduite sportive. De ce côté-là, elle en donne plus que le client en demande. Je n'hésiterais pas à dire que c'est parfait. L'équilibre des masses, la précision de la direction, l'adhérence, la stabilité en virage. Il y a juste la pédale de frein qui prive la Giulia d'une note parfaite. Pédale de frein qui est vraiment pas assez progressive, moi, qui m'a vraiment irrité. Je ne sais pas si tu as eu ce même feeling-là, toi aussi. Puis une pédale qui ne donne pas de sensation. On s'y habitue, mais tu sais, ça demeure un irritant. Là.
Ben, c'est en conduite de tous les jours. Moi, j'ai trouvé correct. Mais en conduite un peu plus sportive, je dois te donner raison.
Oui, ça a des limites. Ouais. Hein?
Et voilà.
Et pour conclure, Daniel, la question qui tue,
sera-t-elle
fiable?
Oh!
C'est la grande question. Hein? Alfa Romeo, là, comme toute marque italienne, de toute façon, Alfa Romeo traîne une réputation pas très flatteuse dans ce domaine-là, une réputation qui fait peur. Mais évidemment, en location, on diminue de beaucoup le risque. Puis l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que ça va être moins fiable qu'une allemande, là? Vraiment? Hein, parce que là-dessus, c'est un petit peu...
Je pense qu'ils n'ont rien à envier.
C'est ça. Puis tu sais, c'est important de dire qu'au moins, la Giulia, c'est pas une voiture qu'on voit à tous les jours, à tous les coins de rue. De ce côté-là, l'exclusivité est assurée. Puis en plus, Alfa Romeo, ben écoute, c'est une marque qui a une grande histoire, qui a un riche patrimoine, autant sportif que pour ses modèles de série. Alors, t'as quelque chose, tu sais, qui a une certaine noblesse.
Voilà. Hey, merci, Philippe.
Te parler d'Alfa Romeo, tu sais que ça a été un plaisir, Daniel.
Tu vas nous parler de quelque chose d'aussi excitant la semaine prochaine, j'en suis sûr. Et on peut te lire où?
philippelagu.com, il y est question d'ailleurs, vous pouvez voir des photos de la Giulia et si vous voulez voir des photos aussi dont on a parlé dans l'histoire d'Alfa Romeo, il y en a sur le site.
Merci Philippe. Alors, on fait une pause et je sais que vous êtes en ligne. Attendez, on a René, je pense, on a Elisabeth aussi, plein d'autres en ligne. On fait une courte pause et on vous parle au retour, promis.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là.